Kérosset pour faire une tshuva, besimcha, en français, repentir dans la joie. Effectivement, il y a un risque quand on a péché. On se rend compte de la gravité de la chose, on se rend compte de la bêtise de la chose, du dommage de la chose, qu'on rentre en déprime. C'est certainement faux. Yom Kippour, c'est un jour où on pleure beaucoup, on est censé pleurer beaucoup, en tout cas, sur nos péchés, nos nombreux péchés, mais c'est un grand jour de joie. Il y a un Midrash qui dit que Yom Kippour, c'est comme un roi qui a dit aux citoyens de son état, sortez toutes les ordures qu'il y a chez vous à la maison. Mettez tout au milieu de la rue. Chacun fait le grand nettoyage, il met tout à l'extérieur, et le roi vient avec la voirie, et hop, ils enlèvent tout. C'est un jour extraordinaire, où Dieu vient et nous blanchit. Quelqu'un a fait des bêtises, et tout le monde fait des bêtises durant une année, et c'est long, et c'est une tâche indélébile. Il suffit de dire, je regrette, j'aurais voulu que ça n'ait pas eu lieu. Je manifeste que ma volonté, elle est contraire à ce péché, et de tout cœur, j'aurais souhaité que ça n'ait pas eu lieu, eh bien, c'est déraciné. Ça n'a pas eu lieu. Et cette joie est faite par amour, alors c'est transformé en mérite. C'est un super cadeau, donc on doit être en joie. Mais il est vrai que ce cadeau passe par la tshuva, c'est-à-dire par le regret. Et le regret, il est amer. Tu sais pas, qu'est-ce que je suis heureux d'avoir été au Club Med, de regretter d'avoir été au Club Med. Enfin, je ne sais pas comment, c'est un peu difficile. Il y a le regret, c'est un sentiment, j'ai été bête, j'ai mal agi, c'est dommage. Maintenant, exactement quand on est en phase de regret, exactement proportionnellement, on est en phase d'amour, de relation extrêmement proche avec Dieu. C'est exactement simultané et proportionnel. Je vais donner un exemple que je vais donner de temps en temps. Quelqu'un qui a péché envers son père. Il s'en veut terriblement. Son père qui a été bon, qui l'a donné, qui a... Et lui, il a vraiment très mal agi. Il est vraiment comme une ordure, il s'est comporté. Ouais. Il sait que son père ne veut plus lui parler. Et il va, il décide un beau jour, prend son courage à deux mains, et vient demander... Mechila, pardon à son père. Et son père fait une tête. Il ne veut même pas lui parler au début. Et le gosse vient et fait tout son plaidoyer, sa demande de plate excuse pour toutes les bêtises qu'il a fait. Et son père lui dit, avec un sourire, viens mon fils dans mes bras, je t'accepte. À ce moment, qu'est-ce qui se passe chez le fils ? D'habitude, il y a un éclat de sanglots, d'amour vers le père, et une répétition. Tu ne peux pas savoir, papa, à quel point je regrette ce que j'ai fait. Ce que je te dis, c'est vrai, mais tu ne peux pas imaginer. Ça va ensemble. La proximité de Dieu, Dieu n'est pas n'est pas menaçant, n'est pas... vengeur, en tout cas, Yom Kippour, c'est l'attribut de miséricorde. Rosh Hashanah, c'est la justice. Alors, la mitzvah de Rosh Hashanah, c'est Dieu était le roi. C'est pas le moment de rappeler les péchés. Rosh Hashanah, on ne fait pas de tshuva. On fait tshuva dans le cœur, on fait tshuva pendant le chauffard. Mais on ne doit pas rappeler les péchés. Parce que c'est pas le moment maintenant d'aller et comme quand tu vas vers un père. Dans la démarche dont je viens de parler auparavant, l'enfant va essayer de réveiller chez son père, l'attribut de miséricorde. Le père, il a une capacité de miséricorde. Mais là, maintenant, il est dur, il n'est pas content. Et toi, tu fais des plates excuses, tu exprimes ton regret à un point tel où se réveille chez lui l'attribut de miséricorde. Et le père, il a pitié de son fils. Maintenant, quand le père est dans la situation de justice, dure, et on va dire, rigoureux au maximum, pas le moment de dire j'ai péché. Non, au contraire, tu te tais. C'est le moment où il faut rester au garde à vous. Subir, ça c'est Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, on est au garde à vous, on dit la grandeur de Dieu. Il y a une lumière extraordinaire qui vient. D'ailleurs, c'est un peu paradoxal. Comment se fait-il qu'on est jugé à Rosh Hashanah, puis après, on a 10 jours de pénitence, et Dieu, le 10e jour, c'est le jour de Shuvah. On dit faire le contraire, faire Shuvah d'abord. Fait qu'on a bien fait Shuvah, on a bien regretté. Dieu vient et nous juge. Ok, on va voir où on en est. D'abord, il nous juge. Mais on n'a pas fait Shuvah encore. C'est seulement après que tu as 10 jours spéciaux où la présence de Dieu est très très grande, la présence divine est très proche, où il est facile de revenir vers Dieu. Pourquoi il ne fait pas ça à l'envers? Réponse, parce que pour pouvoir vraiment faire une investigation intérieure avec regret de ce que nous sommes, on a besoin d'une aide divine, d'un sentiment de purification, d'un sentiment de pureté qui vient en nous et qui nous montre à quel point il est à côté de la plaque. Ça, c'est Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, durant le chauffard, durant cette journée tellement sainte, ces 2 jours saints, il y a une présence, une lumière, Hachem, Ori, Vishri. On dit maintenant, dans certaines communautés, on a la coutume de dire à la fin de la prière, il rajoute un chapitre de Tehilim supplémentaire. Et là-bas, on dit Hachem, Ori, Vishri. Dieu est ma lumière et Vishri, ma rédemption. Chazal, on dit Ori, ma lumière, c'est Rosh Hashanah. Ici, ma rédemption, c'est Yom Kippour. Car effectivement, à Rosh Hashanah, il y a un dévoilement de lumière de Dieu bien plus grand qu'à Yom Kippour. Il y a une lumière, la lumière messianique, la lumière de la fin des temps. On parle maintenant du chauffard de la fin des temps. Toute la prière de Rosh Hashanah, elle parle de la fin des temps. Quand enfin Dieu va se dévoiler en tant que roi du monde, ce que nous demandons, nous voulons, que toute l'humanité, que toute la création reconnaisse sa royauté totale. Nous étant dans cette optique-là, on arrive à une conscience beaucoup plus grande de la royauté totale de Dieu. Et là, on se rend compte, mais qu'est-ce que j'ai été bête, comment j'ai perdu mon temps toute ma vie à côté de la plaque. Dieu, il n'y a que lui, il n'y a que sa royauté, et moi je perdais mon temps à ces bêtises. Donc cette lumière qui vient le jour de Rosh Hashanah, elle nous aide à faire en fait, c'est comme si tu vas dans une cave, il y a des saletés. Bon, là, tu prends maintenant une torche, tu commences une torche, une lampe de poche puissante, et tu vois, tu commences à voir, tu vois chaque petite saleté. La lumière de Rosh Hashanah, elle est là pour nous faire, au contraire, mieux voir où sont nos péchés, pouvant donc nous aider à faire une tchouva intelligente. Parce que nous, maintenant, en fin d'année, on charrie derrière nous toute la bêtise d'une année entière, donc on se traînasse comme ça. Alors, bien qu'on sait qu'on doit se corriger, mais... T'as la fatigue de l'année entière. Il faut un sang nouveau. Sang nouveau, cette lumière qui vient à Rosh Hashanah. Donc cette lumière vient et nous permet de faire cette investigation et ce retour. Et à Yom Kippour, c'est un autre attribut de Dieu qui se dévoile, celui de la miséricorde. Et quand on sent que Dieu est miséricordieux, donc comme j'ai commencé à dire, Dieu n'est pas menaçant. C'est pas menaçant. C'est pas une peur terrible, ça c'est plus Rosh Hashanah, quand la royauté totale de Dieu se dévoile, oui. Mais Yom Kippour, c'est le Père bon qui te demande, qui tend sa main, qui dit viens, viens, raconte-moi le maximum. Comme dit ce Midrash, sortez vos ordures, il dit toutes les bêtises que tu as fait, récite-les, dis que tu regrettes, et moi je prends tout et je nettoie. C'est le plus beau jour. Le plus beau jour. Où Dieu est présent et il demande qu'à nous laver. Donc, quelque part, on est triste pour notre, on n'est pas triste, on est en pleurs de regret de ce qu'on a fait, mais c'est un pleur presque d'amour. C'est un pleur d'amour, parce qu'il ne peut se produire que grâce à la sensation puissante de proximité de Dieu. Quand tu sens à proximité de Dieu, tu te rends compte de quel point tu étais à côté, alors tu regrettes. Et ce regret, il te propulse encore plus proche de Dieu. Et tu es encore plus proche de Dieu, donc tu regrettes encore plus. En tout cas, le principe est, pour répondre à ta question, que la tchouva... Elle peut se faire dans la crainte. Mais la belle tchouva, elle se fait dans l'amour et dans la joie. Et dans les larmes. Et ce n'est pas antinomique. Je vous ai souvent répété dans le piyout, la chanson, le poème qu'on cite, qu'on chante avant le chauffard à Rosh Hashanah. Enkel v'anekad v'amizbeach. Je ne sais pas comment font les Nord-Africains, mais ici en Israël, c'est Rokel va nekel va misber, c'est un très très beau piout qui réveille beaucoup le cœur avant le son, avant qu'on sonne le chauffard. À un moment, donc on parle là-bas, Roked va nekad, Roked, c'est celui qui attache la bête pour l'égorger. Anekad, c'est la bête qui est égorgée, va misber et l'autel. Et on parle en fait pas d'animaux, on parle d'Abraham et Yitzhak. Abraham qui va ligoter son fils Yitzhak sur l'autel. Et on parle de cet acte de bravoure qu'a fait Abraham Avinu. Comme nous, maintenant, on est prêt à se donner corps et âme à Dieu. Et là-bas, dans cette chanson, à un moment, c'est marqué, Abraham, on parle d'Abraham, c'est marqué, Lev boche, Lev bemar boche, non, Ain bemar bocha, velev sa mère. L'œil pleure avec amertume et le cœur est heureux. Ça, c'est comme ça la tchouva. Sachant que maintenant tu reconnais, tu prends sur toi de changer, tu acceptes sur toi, tu reconnais la grandeur de Dieu, ça te purifie, ça met sur toi directement une grande lumière qui est. Comment expliquer cette lumière? C'est pas que du coup il y a plus de lumière, d'accord? Tu sens chez toi un sentiment de proximité de Dieu qui est extrêmement agréable, bon et dans les pleurs. Voilà, ça c'est Yom Kippour. En général, dans la tchouva, tu veux dire au jour le jour. Pourquoi est-ce qu'on serait triste? Est-ce qu'il y a un danger? D'où vient ta question? Pourquoi est-ce qu'il y aurait-il un piège de tristesse?
Souvent, t'es un nul, finalement. T'es un nul. Quand tu fais un truc pareil. Et ça donne dégoût,
Il faut faire attention. Donc, je répète la question ici au micro. Donc, je pose la question, pourquoi est-ce qu'on serait triste en faisant tchouva? Parce que on se dit, t'es un nul, t'es un vaurien.
C'est négatif
de penser comme ça. Pourquoi c'est négatif? Alors, je vous ai expliqué souvent, je vais répéter. Le but dans notre vie, c'est d'avancer. Pour avancer, il faut être le plus performant possible. Pour avancer, il faut utiliser deux composantes. Très bien. La carotte et le bâton. Voilà. Moi, je veux avancer vers là-bas. Maintenant, ce que je veux, c'est mon âme. Mais j'ai un corps. Le corps, c'est un âne. D'accord? Le corps, il est animal. Il faut le bouger. Il y a deux moyens qui peuvent le motiver. La carotte, je prends une canne avec une carotte devant lui, voilà, la carotte, il va avancer. Et la cravache, le bâton. D'accord? C'est ainsi qu'on avance. Maintenant, notre génération est une génération du coton. Hyper gâtée, qui est tout dans le recevoir et dans le moindre effort. Donc, nous ne pouvons pas supporter beaucoup les coups. On fonctionne beaucoup plus à la carotte qu'au bâton. Et il peut y avoir un danger que quelqu'un qui fasse tchouva utilise trop le bâton sur lui-même. Tu vas aller en enfer, tu vaux rien. Quoi que tu fasses, de toute façon, t'es un nul. On arrive à quoi? On arrive à Amalek. Amalek, sa puissance d'attaque, sa tristesse. Amalek et Matria Safek. La valeur numérique d'Amalek, c'est le doute. Le doute, la tristesse. Quand on est en doute, on est toujours en situation de tristesse. C'est marqué Ens Simcha Kadar Asekot. Tu n'as pas de joie plus grande que enlever le doute. Quand il est en doute, il ne sait pas quoi faire, il est mortifié. Quand tout à coup c'est clair vers quoi on doit aller, il y a une grande joie. Donc le doute et la tristesse, ce sont deux frères. C'est principalement l'arme de Amalek. Je dis dernièrement dans un cours, Rabbeinu Noahari dit, c'est dans les écrits de Kabbalah, que la tum'a qu'amène la tristesse, aucune avéra peut amener. L'impureté, la capacité d'impureté que amène la tristesse, aucun péché ne peut le faire. Parce que quand tu es triste, tu n'as plus envie de rien, même pas de Dieu, même pas de ta vie. C'est exactement le contraire, l'antithèse de ce que Dieu veut. Tout ce que nous voulons sera rapprocher de Dieu. Or Dieu, sa réalité qui se manifeste à nous, c'est son nom, Yud Kei Vav Kei, celui qui était et sera être. Être dans une amplitude la plus divine qui puisse avoir, la plus intense qui puisse y avoir. Donc il faut vivre intensément. Et il y a de vie intense que proche de Dieu. Celui qui est en presque non-vie, au niveau de l'activité pas cérébrale, l'activité de lui, d'accord, d'où il en est, type en déprime, d'accord, c'est millimétrique. Et des fois, ça devient mort. C'est mortel. Pas que se suicide, il y a des gens qui meurent par déprime. Et la tristesse est voisine de la déprime. Donc c'est certain que c'est la plus mauvaise chose qu'il puisse y avoir. Quelqu'un a péché, ok, j'ai péché, c'est pas bien, j'avance. Je fais tchouva et je répare. Baruch HaShem ! Quelle grande joie ! Et savoir que, il est marqué, « En Adam omed al livre Torah, elam ken nirshal ba'em. » Un homme ne peut se tenir, être solide, tenir des paroles de Torah. Paroles de Torah, ce n'est pas forcément apprendre un texte ou savoir une halakha ou une page de Gemara. Torah signifie comment je fonctionne, c'est-à-dire arriver à un degré, se tenir, je le possède, il est à moi, c'est intégré, c'est bon, que s'il a trébuché auparavant dans ce domaine. On ne peut pas apprendre à marcher, un beau jour un gosse se lève, il se met à marcher, ça n'existe pas. Il se lève, il veut avancer, il se met en avant, il tombe. Il se relève, il ne faut pas se mettre en avant, il se met un peu en arrière, il tombe en arrière. Et au bout de 300 fois qu'il se lève et au bout d'un moment, il se tient debout et peut marcher. Et c'est comme ça qu'on avance. Donc l'erreur que quelqu'un a fait, dont il a fait tchouva, c'est un cadeau. Il ne faut jamais dire, bon alors si c'est comme ça, faisons toutes les erreurs du monde pour après être au top. C'est-à-dire que celui qui dit je vais pécher pour après faire tchouva, on l'empêche de faire tchouva. Mais si déjà après coup tu t'es fait avoir et tu as fait tchouva, c'est certain que tu es plus solide. C'est comme ça qu'on apprend. Tu fais avoir une fois, deux fois, trois fois, dix fois par les Sahara. La dixième fois, tu sais déjà, des fois, la dix millième fois, d'accord, peu importe. Mais tu commences à connaître, c'est connu, les gens qui rentrent dans le monde de la Torah, hein, au début, ils ne savent pas c'est quoi le Sahara. C'est comme des bleus qui vont, des soldats qui sont depuis une semaine à l'armée, qui vont au casse-pipe à Verdun, d'accord, dans les tranchées, ils sont ratatinés, ils ne savent pas c'est quoi. Et Sahara, c'est marqué Xil, Zaken Vexil, il est bête, mais c'est un Zaken, c'est un vieux, il connaît tous les coups. Nous, on vient, pépère, on sait, gicler tous les côtés. C'est comme les commandos qui sont arrivés dans Marmara, là, les pauvres, ratatinés, naïfs et bêtes. Mais on apprend, une fois, deux fois, trois fois, dix fois, tu commences à connaître. Benazmanim, les moments de vacances dans les chivotes. C'est inimaginable les dégâts que ça fait. Ça prend aux élèves 2, 3, 4 ans de dégâts à comprendre. Ah, ce coup-là, je me prépare, je me verrouille, Et voilà, plus ou moins, ils traversent. Mais on apprend. Le but, c'est grandir. Tu peux grandir que si tu te confrontes au mal. Ta faculté de bien ne peut grandir qu'en confrontation avec le mal. Donc, si quelqu'un, il a péché, il doit se lamenter et dire c'est terrible et je vais tout faire pour arrêter. Mais il ne doit pas s'enfoncer. Parce que s'il rentre en déprime ou en tristesse, alors là, il est vraiment mort. Donc tu sais quoi? Beaucoup plus la carotte. C'est quoi la carotte? Se dire, pas je vais aller en enfer. Regarde le paradis que je peux avoir en agissant bien. Regarde ce que j'ai à gagner. Regarde qui je suis, un enfant de Dieu. Je dis à quelqu'un ce matin, c'est marqué dans les bénédictions de Bilham. Bilham, il a voulu maudire le peuple d'Israël, et Dieu a fait que la malédiction se transforme en bénédiction. Alors, une très très belle bénédiction, une des parachotes que j'aime le plus dans la Torah, c'est des belles belles brachot sur Am Israël. Ka'et yamer, le Yaakov ou le Israël, un jour viendra un moment où on demandera, on dira à Yaakov et à Israël, donc le peuple juif, ma pa'al el, qu'est-ce que Dieu y fait? Qui va demander? Les anges. Il y a 10 niveaux d'anges, dit Maïmonide. Tu as des anges qui sont grands comme tout l'univers. Tout l'univers. D'une proximité de Dieu extraordinaire. Il y aura un temps, messieurs, où nous, on vivra au niveau de notre source. Notre source de notre âme, elle est dans la divinité elle-même. Et les anges nous demanderont, dis-moi toi qui es là-haut, qu'est-ce que Dieu y pense de ça? Qu'est-ce qu'il fait? C'est ça, qui nous sommes. Et par des petits actes de rien, dans un monde fini tellement court, on peut accéder à ça. Mais il y a de quoi sauter de joie toute la journée. Alors, Hachem Kadosh, il dit, si on pouvait une seconde se rendre compte de la douceur de la Torah, on devient complètement fou. Fou, allié. Pourquoi? Parce que la Torah, c'est la manifestation de Dieu, la pensée divine. Quelqu'un, il commence à voir Dieu, et il devient fou. Alors on l'a habillé. Mais c'est quand même la divinité habillée. Et c'est pas possible. La preuve la plus grande, comme quoi notre Torah, elle est sainte, elle est vraie, elle est divine, c'est la yeshiva. Où tu vois des jeunes gens comme vous qui viennent au mois d'août au lieu d'aller à la plage, qui prennent un texte qui n'a rien à voir. C'est des trucs complètement absurdes. Ça, c'est vraiment le dernier sujet intéressant, dans des détails absolument non significatifs, ayant aucune incidence actuelle sur quoi que ce soit. Et tu passes des heures là-dessus. C'est complètement fou. D'accord, c'est complètement fou. Et ça marche. Et tu vois des gens qui sont hier... je suis parti dans le nord du pays. Avec moi, il y avait un type qui est responsable de beaucoup de groupes de kirouf, de rapprochement des juifs à leur source. Il parle au téléphone avec un type, il parle en anglais, je comprends un peu, un type qui est à Getzel, qui dit, tu sais, moi je suis complètement contre ton projet. Je n'y croyais pas du tout. Et, puis ça, et ça a quand même marché. Alors, ça a l'air de quoi? C'est la yeshiva Getzel. Getzel, c'est la yeshiva le plus classique qu'il puisse y avoir, d'accord? Ils ont amené des élèves de fac, des étudiants, loin de tout, mangeurs de porc et moitié assimilés. Faire du kirouf, les rapprocher de la Torah. Comment? Alors, comment on fait, nous, d'habitude? On parle, l'âge du monde, le pourquoi de la vie. Pas du tout, venez un Bava Kama. Bava Kama, Tosot, Rajbo, Rabbi Geveger, ta. Et ils ont eu plus des résultats fantastiques. Beaucoup de gens ont fait tchouva total. C'est absurde. Le type qui est spécialiste, le spécialiste a dit, j'y croyais pas, c'est pas normal, c'est pas comme ça qu'on fait. Ça marche quand même. Ça marche quand même, alors que c'est des choses qui sont entre ça et moi, où est le rapport? C'est une preuve que cette Torah, elle est divine. Donc, regardez la chance qu'on a, comprendre qui nous sommes et quelle est la valeur de nos actions, en positif, pas en mal, ça nous donne la pêche. Surtout maintenant, messieurs, durant ces jours-ci, il reste combien de temps jusqu'à Rosh Hashanah? Il n'y a pas de moment plus précieux durant toute l'année que ces jours-ci. Elul, et après les 10 jours de pénitence.
On s'en rend pas compte.
Pourquoi on ne s'en rend pas compte? Il s'agit de choses extrêmement fines. Qu'au bout d'un moment, on peut percevoir. Et comme j'ai dit dans un cours dernièrement, Dieu a créé dans le monde, a créé ce monde pour qu'on ait le libre choix, le libre arbitre. Pour qu'il y ait le libre arbitre, il faut qu'il y ait toujours les deux options. Donc, parallèlement au fait qu'il y a maintenant une main tendue de Dieu qui te facilite le retour, tu as aussi un Yetzer Hara du tonnerre. Et à toi de choisir. Tu as ton Yetzer Hara qui décuple. Pourquoi il décuple maintenant et pas avant? Parce que l'aide divine aussi a décuplé. Ça dépend où on est, à l'extérieur du Beit Midrash ou à l'intérieur. Et tout change comme ça. Normalement, avec un petit travail de moussard, faire le bilan de sa vie, voir où on en est, qu'est-ce qu'on peut améliorer, prendre des décisions, avancer, il y a une aide extraordinaire du ciel qui vient. C'est vraiment le moment où on peut, c'est dans l'air. C'est dans l'air. Même au niveau chol, profane. C'est certain que pendant les vacances, tu décompresses, puis après une semaine avant le retour en classe, retour au bureau, etc., tu fais un petit bilan où tu en es, vers quoi tu vas aller. Même chez les goyim, mais ça tombe, pourquoi ils ne font pas ça au mois de mars? C'est tombé comme ça, la même époque. C'est clair que c'est un moment où tu fais les bilans. Et quand tu fais un bilan, alors tu vois où tu en es, tu regardes ce qui, tu essaies de modifier le tir, et nous on va rajouter regretter le passé pour qu'il soit effacé. Par exemple, dans les Slichot. Les Slichot chez les Sfaradim, c'est extrêmement typique de ce que je suis en train de dire. On chante. Mais qu'est-ce qu'on chante? Chatan olefanecha, on a péché devant toi. Rahem alenu, aie pitié de nous. On dirait la fanfare, là. On a péché, on a fait les crétins, et en chantant, tout ça. Qu'est-ce que... Hein? Lentement, très lentement. On doit le faire en chantant, mais c'est un chant en pleurs. C'est un chant en pleurs. Mais c'est un chant. C'est un chant. C'est une mélodie. Et à Kippour, on le chante. Et ce sont les moments les plus poignants de Kippour. On chante à Dieu qu'on a péché. C'est beau. Il y en a qui chantent. puis c'est tout. Ils font la course qui chante mieux, d'accord? Et celui qui chante maintenant, qui chante ses péchés à Dieu, ça veut tout dire. Ça veut dire en pleurant. Et tu vois les gens, à Yom Kippour, Khatan al-Fanecha, en pleurant, mais ils le chantent. Parce que c'est beau, c'est grand.
C'est les Ashkenaz?
J'ignore. Je sais pas, il paraît que c'est très puissant. Alors, j'ai jamais fait le Kippour avec les Ashkenazim, mais ils ont leur mélodie aussi, et il paraît que c'est aussi très très... Il faut aussi en chantant. Tout le monde chante, Baruch HaShem, Ashkenaz et Sfarad. C'est d'autres mélodies, hein. Mais il paraît que c'est extrêmement poignant. C'est toujours, ça a toujours un petit côté un peu mélancolique, même chez nous. C'est aussi un peu de mélancolie. C'est la joie et mélancolie ensemble. Mais faire attention aux sarades de la tristesse, c'est le plus dangereux. Mais il n'y a vraiment pas de quoi déprimer. Celui qui est en situation de regarder ce qu'il a fait, qui comprenne qu'il a reçu un très grand cadeau de Dieu. Et il est dans la vérité, dans le vrai. Qu'est-ce qu'il y a quelque chose de plus grand? Est-ce qu'on voit quelque chose de plus grand que d'être dans le vrai, d'être aimé de Dieu? Regarde les paroles du Rambam, comme il dit, le Baal Tshuva. Du moment qu'il a... On a fait ça ces derniers matins, quand on parlait de Chod Tshuva, c'est marqué dans traité Kiddushin. Si quelqu'un, un rachat, un impie, une ordure, un type vraiment mauvais, un proxénète de la mafia, il vient vers une femme, pas mariée, et lui dit... Il lui donne une bague en lui disant « Tu deviens ma femme par cette bague, mais à condition que je suis un tzaddik parfait. » Elle ne sera mariée qu'à condition qu'il soit tzaddik parfait. Si la condition n'est pas remplie, le mariage n'est pas effectif. La Gemara dit « Elle est mariée. » En tout cas, on a un doute suffisant pour que, si elle veut se marier avec un autre, elle doit recevoir un guet, un acte de divorce du premier. Mais c'est un mafiosi. La Gemara dit, peut-être qu'il a eu une pensée de tchouva. Hirur tchouva, une pensée. Je suis bête. Dommage. J'arrête. Il continue. Mais il a pensé. Rien qu'en ses pensées déjà, il arrive au statut de tzadik gamour. Tzadik parfait. Alors c'est vrai qu'après il doit changer et réparer. Ok, mais déjà, il est aimé. Il est aimé par Dieu. Et Maïmonide dit... Tenez-moi Maïmonide, Aleph, Mada, chapitre 7, Alakha 7. Kama Meula Mala Tachuva. Combien est grand le degré de la Tchouva? Emesh, hier, celui-là était séparé de Dieu, éloqué d'Israël, le Seigneur d'Israël, Shenemar, comme il est dit, Avantem, Hayu Mavdilim, Benechem, Leben Elohechem. Vos péchés, Mavdilim vous séparait entre vous et votre Dieu. Tsoek, il crie vers Dieu, Venonana, on ne lui répond pas. Osef mitzvot, il fait des mitzvot, Torfin otam befanam, on lui jette sur sa figure, ses mitzvot, on ne veut pas toi ni tes mitzvot. Et aujourd'hui, au Moudbak Bashrina, il est collé à la Shrina. Il y a même verset pour chaque chose. Je n'ai marre, Vatem hadvekim Bashem elokechem. Soek, il crie, et on lui répond, Miyad, immédiatement, je veux un élève, c'est presque un proxénète de la mafia. Il était dans la coke, il était très très bas. Très très bas. Aujourd'hui, on peut le voir de temps en temps passer dans le quartier, c'est un Tamil Chacham, personne ne sait de qui je parle, un super Tamil Chacham aujourd'hui. C'était un type très dur au début. Il a raconté une fois, il était dans le Beit Midrash, il y a deux filles qui passaient dans la rue, ils n'ont pas vu, ils ont entendu rire. Il s'est levé comme ça en tremblant. Tellement c'était... Je retenais à peine. Un jour, il m'a dit, après quelques mois, qu'au d'arabe, j'ai peur. Chaque prière que je fais à Dieu, elle est exaucée. Un batchoua d'amour. Ça marche, ça marchait. Pas toujours, bon, aujourd'hui, je ne sais pas où il en est, mais pendant quelques mois, il y a un degré pareil, fantastique. Parce qu'il a fait une tchouva énorme. Osef mitzvot, il fait des mitzvot, et on les accepte avec joie. Et non seulement, mais Dieu a envie de ces mitzvot. Ça, c'est un passage. Autre passage. Hier, celui-là était haï par Dieu. Meshukatz, horreur, meruchak, éloigné, toeva, dégoûtant. Et aujourd'hui, il est aimé. Nechmad, mignon, envié, karov, proche, yedid, ami. Une pensée de tchouva. Quand on fait tchouva, il faut se dire ça. J'ai été nul, mais maintenant que je regrette ce que j'ai fait, je suis aimé, grand, grand, plus grand que les anges. Et Dieu nous aime. Sachez, la plus grande action que l'Éternel a faite dans le monde, sa plus grande victoire, c'est qu'il nous a rendus opaques, ignorants de l'amour que Dieu a pour nous. Si on se rendait compte un tout petit peu de cet amour-là, on courait vers Dieu, à la prière, à la gemara sans cesse. Dieu nous aime, nous aime, nous aime, qui qu'on soit. T'as pas aujourd'hui les grands, grands Rechaïm, c'est mort, c'est terminé. Ils sont tous dans la tombe, ceux qui allaient contre la Torah exprès, des militants. Aujourd'hui, c'est rien, c'est le ventre, et pas plus haut, et des fois plus bas. Alors, chaque juif est extrêmement aimé. Attends, quelqu'un qui est Balchoua, qui revient, quelqu'un qui est dans la Torah, qui fait une démarche, combien il est choyé, aimé par Dieu. Maintenant, plus tu le sais, plus tu es en relation avec Dieu, plus tu es en relation, plus il t'écoute. Quand il y a une relation, ça marche, c'est donnant-donnant. Donc travailler sur l'amour de Dieu. Répétez souvent, Shema Israël, tout le monde sait que Dieu existe, Hashem le Kodon, Hashem Echad, après c'est marqué, peut-être Hashem le Kar, faut aimer Dieu. Et aimer Dieu, c'est une relation donnant-donnant. C'est-à-dire, tu aimes, donc Dieu se rapproche. Quand tu travailles sur l'amour de Dieu, Dieu se rapproche, tu sens l'amour de Dieu. Et plus tu sens l'amour de Dieu, plus tu l'aimes. Donc il faut travailler là-dessus, savoir, se battre contre cette bêtise, etc., qui nous fait croire que Dieu ne nous aime pas. Dieu nous adore, nous aime. Nous choye, nous chérit. Quand tu te sens chéri de Dieu, tu te lèves le matin, de bonne humeur. Bah, ou Adonai, le monde va, mais...